Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle heure d'entretien. Par les temps qui courent, écoute les artistes tous les soirs pendant une heure. Ce soir, on est ravis de recevoir Béatrice Leca.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
Mentir est facile. Chaque jour, l'enfant descend dans la cave, les escaliers, les lampes, la pénombre, où s'enfoncent comme dans une fumée les murs et les angles. Le roulis des câbles, les ascenseurs, glissant sur leur trajectoire verticale, les veilleuses rouges l'accueillent, le saluent, le guident et le pressent. Rien ne menace son chemin. Sa joie l'entrave un peu, elle est trop lourde, elle l'encombre, ou est-ce une crainte qu'il ne comprend pas tout à fait ? Ce sont vos mots, Béatrice Leca, ils sont extraits de L'étrange animal, publié ces jours-ci aux éditions Corti. Dans une sorte de demi-rêve, vous écrivez la rencontre entre un animal et un enfant. New York n'est pas loin, la maladie et la mort non plus. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
C'est une cave. Une petite pièce noire. Les pierres montent jusqu'au plafond. Il y a une odeur tiède de granit et de poussière. Il y a des tuyaux en fer, certains fins comme des doigts, d'autres énormes, plissés et qui se courbent lentement les uns au-dessus des autres. Il y a des caisses de bois, une chaise, une ampoule cassée au-dessous d'un fil. Il n'y a rien. La lumière n'entre pas. L'ombre vide entièrement ce rectangle immense et tiède. De l'autre côté, le jour se lève. L'étrange animal reste immobile et silencieux. Il est là. Sa respiration lève un poids invisible. Un effort se contracte et se lâche. Cage thoracique lourde, compliquée. Une grotte de chair s'ouvre et se ferme. On entend presque un soupir. Rien ne bouge cependant. L'ombre noire de la cave étend dans ses yeux des mouvements plus profonds, des fentes brillantes comme sur les étangs. Une vaste tristesse qui remue. Un charbon parcourt ses écailles serrées, ses poils, ses griffes, sa longue échine. Lorsqu'il dort, l'étrange animal s'affaisse comme une peau dont on aurait sorti les entrailles. Seule sa tête reste sculptée, dure. Les deux petites cornes de chaque côté de la gueule. Deux virgules d'ivoire inutiles. Le front ramassé. Les triangles affûtés des oreilles où le poil devient doux comme celui des chats. L'étrange animal dort les yeux ouverts. Parfois sa fourrure est traversée de frissons. Il grogne et ramasse sous son ventre ses pattes courtes, comme s'il se souvenait. Ses dents broient quelque chose avec douceur. Il lèche le sol et gémit. Puis son sommeil l'éloigne à nouveau, au large de la cave. Il arrive qu'en rêvant, l'étrange animal se métamorphose. L'eau l'emporte alors en poisson, dauphin, baleine blanche.
Béatrice Leca, c'est le début de votre texte, L'étrange animal, que lit Romain de Bec de Lièvre. Et on commence par une image qui est celle de la cave. Très rapidement, elle va, j'ai envie de dire, gagner en irréalité et ne pas être qu'une cave, mais aussi bientôt un espace liquide, un endroit qui va pouvoir s'ouvrir à d'autres dimensions. Et assez rapidement, cette cave peut aussi devenir un espace mental, ou un espace en soi, le ventre, ou l'étrange animal, la mélancolie, la maladie, bref. Tout ça pour vous demander de quelle image vous êtes partie, vous, pour écrire ce texte.
Alors, ma fille m'a rappelé que c'est parti d'une histoire que je lui ai racontée un soir, mais j'avais complètement oublié ça. Je pense qu'en réalité, c'est vraiment parti, mais je l'ai compris que récemment, c'est parti de la maladie. Voilà. Et visiblement, vous l'avez vu, c'est parti de la maladie et de l'enfermement que c'est, la maladie. Je crois que c'est ça.
Est-ce que, ça c'est ce qu'on comprend peut-être quand le temps a passé, et que cet étrange animal peut peut-être être, je sais pas, petit à petit, lisant le texte, je me suis dit, c'est peut-être un cancer, c'est peut-être une dépression, c'est peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais au départ, vous construisez un texte, c'est-à-dire que vous l'imaginez vraiment, cette rencontre entre l'animal et l'enfant. Et donc j'imagine une sorte d'imaginaire qui va avec.
En fait, c'est ça qui était vraiment merveilleux quand j'ai écrit ce texte, qui m'était jamais arrivé et peut-être qui m'arrivera plus jamais. Moi, j'avais jamais écrit des textes de fiction. Et je suis rentrée dans cette histoire comme si elle était réelle, comme si je voyais tout. Et de l'écrire, ça me permettait d'entrer dans cette pièce et de voir ce qui... Et en même temps, de voir de mieux en mieux ce qui s'y passait. Alors, j'avais une espèce de crainte, je crois, au début, de ce que j'allais faire de ça. Et puis après, il y a eu... le texte est venu, je sais pas comment dire, quoi. Et c'était comme si... comme si j'entrais dans mon propre rêve et que je pouvais le décrire, juste le décrire, pas du tout le manipuler, mais le décrire de mieux en mieux. Et c'est pour ça... que j'ai écrit sur la quatrième de couverture que c'était une histoire vraie. Je me suis toujours énormément moquée des écrivains qui commentent leurs personnages, et puis comme si leurs personnages étaient réels, et puis qu'il y avait une vie des personnages en dehors des livres.
Qui les commentent quoi, par exemple, à la radio?
Oui, ou... qui disent « j'ai vécu avec ces personnages », etc. Je trouve ça toujours un peu ridicule, quoi.
Et quoi, vous voilà prise au piège avec vos personnages, Béatrice Leca.
En tout cas, c'était ça. Je pense que ça devait correspondre à quelque chose de si puissant inconsciemment que oui, j'étais quand même assez branchée, quoi. Et jamais j'aurais imaginé être autant au premier degré, en fait, à l'intérieur d'un texte.
À l'intérieur d'un texte de fiction, vous faites d'emblée la différence en disant c'est la première fois que j'entre aussi dans ce territoire-là, qui est quoi, une sorte de pur territoire d'invention. Ça va contre l'idée de l'histoire vraie, mais...
Alors pour moi, c'était pas vraiment en termes d'invention, c'était en termes de narration. Ça fait rigoler certaines personnes quand je dis ça, mais moi j'ai l'impression que c'est une espèce de roman où il se passe plein de trucs. Bon, et c'est probablement aussi un texte très immobile, mais moi, j'ai l'impression d'avoir écrit un roman, en fait, et une histoire. Bon, alors, l'histoire, peut-être qu'en réalité, elle est invisible dans le texte, mais moi, j'ai suivi un récit.
Qui est
un enfant accompagne quelqu'un qu'il aime follement, jusqu'à sa mort. Et en même temps, on ne peut pas l'accompagner jusque-là.
Donc il descend pas exactement à la cave, quoi.
Il descend quand même à la cave parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre lieu de rencontre. L'étrange animal, il est enfermé. Alors, d'ailleurs, il n'est pas question de le sortir de là, en fait. Enfin, j'ai jamais pensé à ça, mais ça fait partie des... Ça fait partie de ce qui préexiste au texte. C'est que lui, il est enfermé et il a sa solitude.
L'animal.
Voilà. Et il va aller à sa mort. Et l'enfant, il est une sorte de compagnon, quoi.
De visiteur du soir.
Voilà, c'est ça.
Et en même temps, ça convoque aussi assez rapidement, bon, c'est un texte qui demande enfin, qui appelle nos propres imaginaires. Donc, peut-être que moi, j'aurais pas répondu la même chose si j'avais dû dire qu'est-ce que raconte ce texte-là. Et donc, aussi, un enfant qui descend régulièrement dans la cave, ça peut être plein de choses. Ça peut appeler très vite plein de choses. Par exemple, la guerre. Par exemple, moi, ça a convoqué l'idée que, dans les moments de bombardement, quand des familles devaient aller se cacher dans la cave, c'était peut-être des moments de terreur pour les adultes, mais c'était peut-être des moments d'invention et d'imagination pour les enfants. Que la cave, c'est toujours ça, comme le disait le texte en introduction, c'est une joie qui entrave, mais ou alors c'est une crainte qui comprend pas tout à fait. Il y a une forme d'excitation aussi.
C'est bah la cave, c'est la. Voilà, c'est une forme du grenier, c'est une forme de c'est une forme de la cabane, c'est. Alors c'est une forme plus, enfin moins lumineuse quoi, mais c'était aussi probablement, enfin tout ça, c'est pas du tout réfléchi, hein, je le vois en même temps que je vous parle, mais c'était probablement le contraste entre cet appartement où il vit, qui est une sorte de, qui baigne dans un luxe d'aéroport, qui est très américain, qui est New York, qui est désincarné complètement. Et que je voyais pas très bien, moi, en fait, en le décrivant. Je voyais des choses, je voyais plus ce qui se passait par la fenêtre, du dehors, que cet endroit très ultra propre d'hôtel de luxe, en fait.
Ou d'hôpital.
Alors, d'hôpital de luxe, parce que si les hôpitaux... Non, je vois les hôpitaux... Maintenant, je vois les hôpitaux comme des lieux beaucoup plus... beaucoup plus habité, beaucoup plus dangereux et
pas du tout aseptisé comme cet appartement que vous imaginez. Et pourquoi New York ?
Et pourquoi New York ? Parce que à New York, je me suis retrouvée en face du, enfin donc en face de l'île de Jersey et qu'on voit ces immeubles lointains. Ça, je peux dire, je les ai vus comme des animaux. Enfin, c'était donc après pourquoi, je sais pas. Mais enfin, cette idée qu'en fait il y a de l'eau, il y a c'est. J'y suis pas beaucoup allée à New York, mais j'ai trouvé que c'était une ville. D'abord, c'est une ville qu'on connaît même quand on n'y est jamais allé, et c'est une ville très contrastée parce qu'il y a une espèce de puissance. De la nature avec l'eau, le ciel, et puis en même temps c'est une ville sans arbres quoi, enfin à part ces immenses poches de, enfin à part Central Park etc, mais sinon il y a très peu quoi de végétation.
Parmi les choses que vous posez en dehors de cette cave, dès les premières pages, Béatrice Lecaille, il y a aussi l'idée de la métamorphose. En effet, on vient de vous entendre là, les immeubles loin peuvent très vite devenir des animaux. Cet appartement dans lequel vit l'enfant peut prendre plein d'atours différents, la cave aussi, et qui plus est, l'étrange animal. Ça aussi, c'est une thématique qui est arrivée sans crier gare, l'idée que tout pouvait bouger, tout pouvait se métamorphoser.
Bah oui, mais ça c'est vrai. Je pense que c'est profondément comme ça qu'on regarde le monde. Et je pense que c'est ça écrire, en fait. C'est avoir accès à ces métamorphoses-là.
C'est-à-dire qu'elles ont lieu dans l'écriture ou elles ont lieu dans la vie et dans le regard qu'on porte sur le monde et l'écriture est un lieu pour le faire apparaître.
L'écriture les fait apparaître, mais l'écriture, elle fait apparaître la vérité.
Toujours.
Ah, mais sinon, c'est pas très intéressant, je trouve.
Vous, c'est l'expérience que vous faites de l'écrit, c'est toujours l'apparition de la vérité.
Alors, comme lectrice, c'est ça que j'espère. Après, quand on écrit, c'est en tout cas, c'est pour ça que moi j'écris. C'est pour ça que je m'intéresse à ce que j'écris, en fait. Enfin, c'est ça qui m'amène à mon bureau. C'est espérons faire surgir avec une sorte de léger écart du langage, quelque chose qui m'étonne et qui est juste. Voilà. Je dis pas que je réussis, et puis je dis pas, enfin, et puis c'est très contrasté le regard qu'on a sur son travail. Mais oui, c'est ça que je cherche, c'est la vérité.
En vous laissant surprendre par elle, en la cherchant,
en fermant les yeux, je pourrais dire. enfin bon, c'est un peu naïf de dire ça, et puis c'est pas vrai, mais en cherchant quelle est comment la phrase va me permettre d'entrer quelque part et d'ajuster au mieux à la fois ce que je vois et ce que la phrase invente.
J'ai beaucoup parlé de ça. Et puis, je ne sais pas ce que c'est, écrire, je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup parlé, croyant savoir. Puis on me harcelait, alors j'ai donné des renseignements. J'ai donné des renseignements sur l'écrit. Mais savoir de quoi ça procède essentiellement, je ne sais pas. Du style, je ne m'en occupe pas, là, dans le livre. Je dis les choses comme elles arrivent sur moi. Je fais le geste, oui, c'est ça.
Oui.
Comme elle m'attaque, si vous voulez, comme elle m'aveugle. Je pose des mots beaucoup de fois. Des mots d'abord, vous voyez. C'est comme si l'étendue de la phrase était ponctuée par la place des mots. Et que par la suite, la phrase s'attache aux mots, les prend et s'accorde à eux comme elle le peut. Mais que moi, je m'en occupe infiniment moins que des mots. Je disais que, vous savez que l'écriture courante que je cherchais depuis si longtemps, je l'ai atteinte, là. Maintenant, j'en suis sûre. Et que, par écriture courante, je dirais écriture presque distraite, qui court, qui est plus pressée d'attraper des choses que de les dire, voyez-vous. Et je parle de la crête des mots. C'est une écriture qui courrait sur la crête, pour aller vite, pour ne pas perdre. Parce que, quand on écrit, c'est le drame. On oublie tout de suite. Et c'est affreux, quelquefois.
Marguerite Duras au micro de Bernard Pivot en 1984, dans l'émission Apostrophe, Béatrice Leca. Plein de choses à relever dans ce que vient de dire Marguerite Duras à la faveur de cette archive. Déjà, l'idée qu'elle pose des mots et qu'ensuite, la phrase se débrouille, les relie, mais qu'elle s'attache davantage aux mots qu'aux phrases. Est-ce que c'est quelque chose... Vous pouvez reconnaître une forme de familiarité avec la manière dont vous écrivez?
Non, je dirais pas ça. Mais j'avais une théorie à un moment donné sur les génies. Je pensais que les très grands écrivains écrivent sans rature.
Pas de reprise, pas de relecture.
En tout cas, ça se passe autrement. Ça veut pas, parce que je voudrais pas laisser croire qu'il y a l'inspiration et que, mais le travail se fait autrement. Bon, évidemment, comme toutes les théories, elle est fausse et puis il y a énormément de contre-exemples. Mais ce qu'elle dit sur attraper quelque chose qui va très vite, moi, c'est ce dont j'essaie de m'éloigner, parce que quand la phrase est pas assez... quand la phrase vient toute seule, qui est une sorte d'état au bout d'un moment aussi, je m'en méfie beaucoup, peut-être je m'en méfie trop, c'est compliqué, je trouve que ça devient de plus en plus difficile, en fait.
Ça devient, c'est-à-dire quoi, le temps qui passe, ou le monde dans lequel vous vivez?
Non, écrire. Enfin, c'est-à-dire, je me pose de plus en plus de questions.
Tant qu'il passe. Plus vous écrivez, plus c'est difficile.
Oui, enfin, il me semble que j'écris plus difficilement maintenant qu'il y a 20 ans. Mais peut-être que c'est pas vrai du tout. Peut-être que c'est comme quand on pense que c'était qu'enfant, on n'avait pas tel ou tel, et puis que c'est pas vrai, quoi. Mais elle est tellement dans son intuition aussi, Marguerite Duras, et elle a le génie de ces espèces d'affirmations, et elle a le génie de sa présence, en fait. Donc
et de ses certitudes, hein.
Oui, oui.
J'ai
oui.
atteint l'écriture que je cherchais, voilà. J'en suis certaine.
Et oui, mais qui va le dire si c'est pas elle? Enfin, je pense qu'elle a aucune aussi, elle a aucune fausse modestie. Elle parle depuis une sincérité totale, et après, elle s'est beaucoup exposée et elle a été beaucoup moquée pour ça. Mais elle est allée toute seule au plus loin enfin, j'imagine, quoi.
D'ailleurs, je crois qu'au début de cette archive, elle dit « J'ai été harcelée pour dire des choses, pour renseigner des choses sur l'écriture », elle dit. Alors, je l'ai fait.
Oui, elle est capable de ça. Elle est capable de parler très précisément de son travail. Et ces textes, ils rendent complètement compte de ça. C'est-à-dire, on est ébloui par Duras, ou alors on supporte pas, j'imagine. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui aiment bien Duras. Je trouve que c'est... elle a un charme ultra puissant, et où on est d'accord pour être envoûté, ou alors on n'y va pas. Mais quand on est envoûté, elle est la sorcière et tout ce qu'elle dit est vrai.
Et cet envoûtement ou ce rapport au charme de l'écrit, c'est quelque chose que vous êtes d'accord pour ça? Ah oui. Vous êtes d'accord pour ça avec Duras?
Moi, je suis d'accord pour que les œuvres soient des dieux et qu'on honore nos dieux. Oui.
Vous vous laissez faire?
Ah oui, j'espère ça. Enfin, moi, d'abord, j'aime beaucoup admirer. Et j'aime l'idée qu'il y a une vérité absolue et énigmatique qui est incarnée dans une œuvre et qu'on peut se recueillir auprès d'une œuvre. La peinture, pour moi, c'est ça. La musique, c'est ça. On va se mettre dans un lieu sacré. C'est des lieux sacrés, ouais.
Quitte ou à condition qu'elle échappe même à l'auteur, cette vérité-là, ou ce secret, ou ce mystère.
Ah, je pense qu'elle échappe complètement à l'auteur. Oui, oui, je crois que c'est assez rare. Enfin, quand les auteurs sont plus intéressants que leurs livres, c'est inquiétant, quoi.
Ou trop clairvoyant.
Ouais, ou même ou qu'ils ont un discours trop... qui comprennent ce qu'ils ont fait. J'y crois pas, mais je crois qu'en tout cas, si on a fait ce qu'on avait voulu faire, alors c'est mal barré, quoi.
Ça veut dire que L'étrange animal, Béatrice Lecave, vous comprenez pas ce que vous avez fait?
Je comprends maintenant, oui. Je comprends que maintenant, comme je pourrais dire, bibliquement, tout est accompli. Donc je comprends. Mais
beaucoup de temps a passé.
Oui, du temps a passé, mais aussi des événements de ma vie qui sont très intimement liés à ce livre sont advenus. Et donc, on fermait le livre, en fait. Donc,
après même que le texte a été terminé.
Oui, bien après. Oui, mais bien après.
La maladie que j'ai eue à ce moment-là, qui était la tuberculose pulmonaire, est une maladie qui a entièrement changé de physionomie, vous le savez. Moi, je suis arrivé, si je puis dire, dans cette maladie à un moment où il n'y avait pas encore de chimiothérapie, on ne la soignait pas par des médicaments, on ne pouvait la soigner uniquement que par le sanatorium et par des opérations chirurgicales. Alors, j'ai débarqué dans cette maladie à un moment où la maladie frappait le sujet qui en était atteint d'un tabou très fort, qui était le tabou de la contagion. Et d'autre part, c'était une maladie très longue, très lente, très longue, et dont on ne pouvait pas surveiller soi-même le devenir, car en fait, on ne souffrait pas. On était, sauf dans des cas très graves, on se sentait bien. C'est simplement le médecin qui vous décrétait malade. Hein. Et il fallait vivre avec cette espèce de décision médicale supérieure au-dessus de vous, pendant des années, le médecin qui décidait que vous étiez malade ou guéri.
La fièvre le quitte. Le médecin, quand il entre, n'enlève pas sa veste, il pose à peine son sac de cuir. Son visage semble plus jeune. L'enfant a oublié les plis du cou et les doigts tièdes. Il regarde désormais la montre nouvelle, brillante, que les mouvements du poignet cachent et découvrent au hasard sous la chemise. Le bracelet métallique et ses maillons enroulés comme les chaînes d'un tank, le cercle de l'acier qui serre les élégants chiffres romains, la marche saccadée de la trotteuse stupide, plus fine qu'un cheveu. Un regard peut-être pourrait l'interrompre. Tension, température, palpation, quelques minutes impatientes. Le médecin est distrait et l'enfant l'entend rire avec son père une fois la porte de la chambre refermée. Il ne marche pas tout à fait. Il flotte, se tient légèrement à côté de son corps obéissant. Une fatigue nouvelle l'accompagne. Il retrouve la pesanteur. Des muscles apparaissent qui tirent et semblent s'allonger à l'intérieur de ses jambes. Les douleurs de la croissance lui reviennent, comme si en lui s'agrégeaient à nouveau des cellules solides qui devaient grandir et durcir encore. Presque 1000 ans sont nécessaires pour qu'une forêt devienne un pays, se souvient-il.
L'après-midi, il se sent parfois rompu et s'endort dès qu'il s'allonge. Il est plein de terre. Dans le salon, la lumière de la lampe lui paraît terne, la tête lui tourne. Les objets ont une présence différente désormais. Il est un étranger dans sa maison. Il s'assoit sur le tabouret de la cuisine, son dos est collé au mur, où il s'allonge sur le carrelage de la salle de bain et l'attend. Il n'y a rien d'abord. Il pense c'est fini. C'était la dernière fois. Ou même au début, ça n'a jamais existé, j'ai rêvé. Il sait que la maladie et ses drogues tiennent parfois dans des pièges et des enchantements particuliers, qu'elles offrent certains cadeaux, puis se retirant, les reprennent, et dans la guérison, il y a alors comme une amertume, une ombre minuscule de regret. Et puis ça vient. Ce très lointain mugissement. Ce chant-là. Béatrice Leca, on entendait d'abord une archive de Roland Barthes en 1975 parler de la maladie, de la manière dont il est entré en maladie, d'une certaine manière, et ensuite un extrait de votre texte « L'étrange animal » pour dire, comme je le signalais en introduction, que non seulement la mort n'est pas loin, mais avant elle, la maladie. C'est bien que moi, parfois, dans le texte, je me disais « Mais qui est malade ?» C'est vrai. Est-ce que c'est l'enfant qui est malade? Est-ce que c'est l'enfant la maladie? Est-ce que c'est l'étrange animal qui est malade? Est-ce que c'est l'appartement qui est malade? Qui est malade? Et dans l'archive de Barthes, quand il y a le tabou de la contagion, on pourrait considérer que c'est comme un texte qui a été contaminé, quoi.
La maladie, c'est la cave, quoi. Voilà. Bon. L'enfant, c'est marrant, là aussi, j'ai jamais pensé. En fait, l'enfant, il est pas malade. C'est-à-dire, l'enfant, il est immobilisé chez lui, mais c'est très léger, puis ça permet...
Parfois, on croit qu'il est dans une chambre d'hôpital.
C'est vrai, oui, et puis qu'il rêve, tout ça, j'ai entendu ça. Mais, non, l'enfant, il est immobilisé chez lui, et puis il y a cette espèce de manège des adultes, et la présence des médecins, elle est, enfin, elle est dans le texte, là, pour le coup, probablement assez comme elle est pour moi. C'est-à-dire, elle est tellement extérieure, quoi. Elle est tellement de l'autre côté. Les médecins ne sont pas les malades, ni les proches des malades. Et donc, ils se tiennent tout à fait à l'écart, quoi. Enfin, rares sont ceux qui ne se tiennent pas à l'écart. Voilà, il y en a. Après, qui est malade, c'est surtout, en fait, c'est surtout l'idée qu'on va pas échapper à la mort, quoi. C'est l'horizon de la maladie, la mort. Et ça, à la fois, c'est difficilement supportable, et puis en même temps, on a que ça, c'est que du temps, être en vie. Donc, on prolonge ce temps.
C'est un texte qui vous a permis de comprendre des choses sur la maladie, sur ce que c'est que la maladie ?
Ah non, non. C'est un texte qui m'a probablement permis d'affronter ou d'être avec, voilà. Plutôt ça, d'être avec. De pas être du côté des médecins, mais d'être du côté de l'enfant.
Qu'est-ce que ça permet d'être du côté de l'enfant ? Pourquoi ce personnage est un enfant ?
Alors c'est ce truc qui m'est arrivé il y a quelques années. Il y a un texte de Nathalie Sarraute qui raconte que quand elle a commencé à écrire, elle disait « je crois je ». Puis après, c'est passé au « on ». Et puis après, c'est passé à « ici ». C'est le dernier texte qu'elle a écrit qui s'appelle « Ici ». comme un endroit d'où on prend la parole. Et ça m'est arrivé et ça m'arrive maintenant que je peux plus écrire, je peux plus écrire à la première personne en fait. Je sais pas pourquoi, c'est faux. Et donc ma première personne, c'est devenu cette troisième personne qui s'appelle l'enfant. Il y a pas que ce texte, il y a d'autres textes qui sont arrivés comme ça.
Ça a à voir avec l'enfance ou pas forcément?
En fait, il est bien possible que ça ait à voir avec le dernier texte publié de Michel Butel qui s'appelle L'enfant. En tout cas, c'est un curieux hasard. Mais après,
et qui est quoi ce texte? Donc, Michel Butel qui est auteur, journaliste, qui avait notamment fondé l'autre journal et l'Impossible.
Voilà. Qui était mon ami et à qui ce texte est dédié. L'enfant, ça parle d'un enfant qui meurt, voilà, qui est malade et qui meurt.
Son texte à lui.
Oui, oui, oui. Après, comment c'est arrivé en moi, je sais pas, mais c'est, comme c'est tellement... c'est-à-dire, c'est désincarné, l'enfant, à la fois, et en même temps, c'est vierge, en fait. C'est pas...
Vous voulez dire comme figure littéraire?
Oui, voilà. Enfin, c'est-à-dire quand on dit ce mot, il est très, il est intact pour moi. Il est et il met quelque chose à distance qui me permet de dire je, sans être embarrassé par l'idée autobiographique que j'ai fini par complètement détester.
Pourquoi? Parce que, alors évidemment, c'est très différent de dire intime, personnel et autobiographique, mais ce texte, il semble extraordinairement intime.
Oui, bien sûr, mais parce que justement, il a pris cette forme qui n'est lisible que par moi ou par, enfin, ou qui est lisible autrement par des gens qui vont. Bon, et ça, c'est ce qu'on attend. Mais dire je et dire des choses de soi qui sont justement pas passées par la métamorphose. Je sais pas, peut-être c'est devenu trop encombré par des choses en littérature contemporaine pour moi qui m'intéressent pas du tout en fait.
Mais que vous pouviez lire sous la plume de Duras, ou vous considérez que par exemple Duras s'est passé par la métamorphose?
Non, Duras. D'abord Duras sûrement quand elle dit je, elle accède à un autre jeu que mais justement bon. Comme pour moi, Duras fait partie des génies, tout ce qu'elle dit m'intéresse, tout ce qu'elle écrit m'intéresse. J'ai pas d'esprit critique là-dessus. Je veux bien admettre, il y a des textes qui sont moins bons, etc., mais je m'en fous.
Et ça vous fait pas peur d'avoir abandonné tout esprit critique à son égard?
Non. Duras, Hugo, Proust, enfin voilà, des très grands écrivains, y compris...
Tout est bon à prendre.
Oui, parce que je pense que c'est un peu comme un visage ou comme un, enfin c'est comme quelqu'un qu'on aimerait. On peut pas dire tiens ça ouais mais je referais ça autrement ou ouais je t'aime bien mais je t'aime hein mais tes oreilles ça non c'est tout et là c'est un donc il y a pas mal d'auteurs que j'aime pour lesquels j'ai enfin voilà je veux bien reconnaître que ça et ça c'est moi ça m'intéresse moi et tout ça mais d'abord je me fais pas tant confiance que ça parce que des gens que je mets très très haut y a des choses d'eux que j'aime moins mais peut-être je les ai pas comprises ou peut-être je vais les retrouver plus tard et ça va sonner différemment donc oui les très grands je pense que ce qu'ils ont donné c'est des petites parcelles divines, voilà.
Et vous aviez peur, avec L'étrange animal, Béatrice Lecas, de dire des choses trop directement autobiographiques, mais trop directement personnelles?
Non, parce que c'était impossible. D'abord, je me suis pas du tout rendu compte en l'écrivant ce texte, et puis, non, justement, la forme du conte et la forme des métamorphoses permanentes m'étaient complètement à l'abri de ça. Peut-être que ça me ferait pas peur dans un autre texte de dire des choses. Évidemment qu'on dit des choses personnelles. Enfin, on dit même que ça. Mais Il faut que ça soit juste pour celui qui écrit. C'est le seul, en fait, c'est le seul critère. Et voilà, tout ce que je dis des gens qui disent je en littérature contemporaine, je pourrais aussi bien dire le contraire. Si le texte est très bon, il est très bon, y compris à la première personne, y compris totalement autobiographique. C'est le genre d'affirmation théorique qui, je pourrais dire le contraire demain. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux, avec Béatrice Leca.
Comme tout ma vie, de la rose déclose, il effraie mon tour, dit après.
Est une des formes du penser, un mode du penser. C'est-à-dire qu'il me semble que dans chaque individu coexistent deux modes de penser. C'est le penser dirigé, le penser qui est dirigé vers un but donné, qui est par conséquent logique, qui est cohérent, et une autre forme du penser qui est une forme statique du penser, qui est le penser non dirigé. C'est une sorte de juxtaposition par plaque d'images ou de quelque chose de semblable. Ce penser non dirigé a plusieurs formes, il est aussi bien à l'état de veille, et la forme extrême est celui du rêve. Par conséquent, le rêve, pour moi, est une des formes du penser. Ce penser non dirigé est une forme archaïque du penser, elle a existé très probablement chez les peuples primitifs, et c'est une sorte de refuge, si vous voulez, c'est une sorte de retranchement, c'est encore une des survivances de ce penser non dirigé primitif qui existe chez l'homme moderne.
C'est Tristan Tzara, dans une émission qui s'appelait Le Bureau des rêves perdus en 1957. Béatrice Leca, pour évoquer avec vous justement cette espèce de, comment on pourrait dire, de régime d'écriture, de régime de pensée, pour reprendre ces mots, lié à la rêverie, au songe, à... Même tout à l'heure, on entendait dans un extrait de votre texte ce que peuvent produire certaines drogues pour le malade, de présence, d'absence à soi, d'éloignement. Comme si ce texte avait aussi un peu été écrit de ce côté-là.
Oui, sûrement. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui est lié à ma façon de moi, je vois en fait les choses. Donc, il y a des écrivains que j'admire qui réussissent quand ils décrivent des choses. Il y a une pensée sous-jacente et il y a des embardés dans la phrase qui font que il y a une description, mais que la description, elle s'échappe vers quelque chose du monde des idées. Moi, j'ai pas du tout ça. Je cherche à être au plus près de ce que je décris, parce qu'en même temps que je le décris, je le fais advenir et je veux que ça, enfin, et je veux m'approcher. Donc c'est vrai que c'est entrer dans son propre rêve. Mais en même temps, dans le rêve, il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon absolu. Et dans l'écriture, non. Et même dans l'écriture, ce serait plutôt trouver se tenir sur cette espèce de crête où on s'abandonne en effet à quelque chose, mais de l'autre côté, on tient parce qu'il faut que la phrase, elle ait sa forme, quoi. Et si possible, une forme singulière. Alors que dans l'abandon, il y a quelque chose du laisser aller qui, dans ma façon d'écrire, ne marche pas.
C'est tout sauf de l'écriture automatique.
Ah oui, c'est tout sauf de l'écriture automatique. Oui, oui, oui. Mais c'est certainement parce que justement, on a lu tellement les surréalistes, et enfin parce que tous ces courants de pensée ont eu lieu, et parce que aussi. Enfin, moi j'ai 48 ans, j'ai écrit de plein de façons différentes, y compris en pensant que tout ce que j'écrivais c'était bien, parce que c'était moi, et donc et puis heureusement après on se réveille. Ça le travail de l'écriture, il est fait parce qu'on a lu, il est fait parce qu'on a admiré, puis il est fait par plein de pratiques différentes en fait.
Quand vous disiez tout à l'heure, Béatrice Lecas, que certaines lectrices ou lecteurs vous ont dit que peut-être tout ça était un rêve, que cet enfant ne descendait jamais à la cave rencontrer un animal, que peut-être il était...
Qui était malade.
Ouais,
c'est fou, il est pas malade.
Tout à fait immobile. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dit quelque chose? Ça renseigne sur votre écriture?
Non, ça me plaît... Ça me plaît que ça soit lu si loin de comme moi je l'ai écrit, en fait. Une amie m'a envoyé un message il y a quelques jours pour me demander qu'est-ce que c'était cet animal.
C'est-à-dire, genre, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un hérisson ou est-ce que c'est un...
Enfin, qu'est-ce que c'était l'histoire de... Puisque c'était une histoire vraie, alors qu'est-ce que c'était et qu'est-ce qu'il était devenu, cet animal? Et ça m'a beaucoup plu, en fait. Ça aurait pu, enfin, venant de quelqu'un d'autre, ça m'aurait peut-être exaspéré, mais venant d'elle, ça m'a beaucoup plu.
Mais que une recherche de concret.
Que ça soit pris au sérieux, c'est-à-dire, ok, c'est une histoire vraie. Alors, il est mort, l'animal? Il est où? Est-ce que c'est un petit animal qui a été kidnappé, et puis, mis comme on voit les lions, ou comme on voit les animaux sauvages enfermés, en effet, par des New-Yorkais fous? Est-ce que c'est une histoire de cet ordre-là? J'adore.
Vous lui avez répondu quoi, sans indiscrétion?
J'ai répondu que, en ce sens, ça n'était pas une histoire vraie. Et alors après,
trop de déception.
On a eu un échange et elle m'a dit, alors puisque l'étrange animal n'existe pas, etc. Et j'ai dit, mais si, il existe. Et c'est vrai, je pense qu'il existe.
L'enfant caresse les grands poils secs, dur comme les joncs le long de l'échine, plus doux autour du cou et de la tête. Dans sa paume se dessinent les os aigus, la masse solide et fine des muscles, terreur et course, une électricité légère. Des images anciennes de bataille ou de chasse passent secrètement en lui. Puis il parle. Avec l'étrange animal, peut-être l'enfant parle-t-il une langue étrangère, une langue faite de grognements archaïques, de gémissements, d'appels. Rien d'articulé sans doute. Rien qui passe vraiment les lèvres. C'est peut-être seulement un murmure. Cependant, dans le ventre, la gorge, la poitrine, s'apaisent les battements affolés et peu à peu, sous la paume enfantine, recommence de circuler le sang, le plaisir et la douleur. Il revient, pense l'enfant, et on dirait qu'une présence reprend, laisse le corps abandonné. L'eau noire se retire, et le sable et la boue. L'île est dévastée. Où est mon champ? Où sont les jardins? Est-ce la nuit ou le jour? Il avait traversé les océans, il s'était dissous dans la mer, il était presque à la fin du voyage. Bientôt les tremblements cessent, et bientôt les paupières s'entr'ouvrent. Rien ne surprend l'enfant, mais lorsque l'étrange animal lève vers lui ses yeux noirs, une tristesse lui enfonce brusquement le cœur, qu'il ne comprend pas. D'où viens-tu ? Demande l'enfant. Autour, les ombres se sont rapprochées. L'étrange animal gémit en tournant la tête. Il y a peut-être de l'eau ici. La dernière lumière erre d'une chose à l'autre. Dans la poche de l'enfant, la carte d'Emma Lazarus se corne contre un petit fossile où sont restés imprimés les contours d'une étoile de mer. I wish you a new life in America. Il n'y a rien ici.
Romain de Bec de Lièvre lit un extrait de L'étrange animal, Béatrice Leca. Et c'est un texte, un moment du texte où il est vraiment question de leur possibilité ou impossibilité ou invention de possibilité de communiquer entre l'enfant et l'étrange animal, notamment par une sorte de langue étrangère de l'étrange animal. C'est quoi cette langue étrangère ?
C'est la langue de l'amitié. La langue de l'amitié, elle passe pas du tout par ce qu'on dit. Donc, de quoi elle est faite et comment elle circule entre nous. En tout cas, peu avec le sens de ce qui est dit.
Et alors avec quoi ?
Je sais pas, peut-être avec une musique particulière ou avec un...
Plutôt des le chant ondes. Et les questions du chant, ouais, c'est ça ?
Voilà, ou des ondes, je pense. Je pense que c'est ça échappe... Probablement, tout est dit par le langage et en même temps, tout lui échappe. C'est-à-dire que ce qui
Tout est dit par le langage, par les mots, par les mots.
C'est-à-dire que je pense qu'on peut probablement tout dire avec le langage, mais on voit bien, par exemple, on voit bien que la poésie, qui est la forme ultime de la langue, on voit bien que c'est pas traduisible autrement, voilà. Donc il y a une énigme de qu'il y a quelque chose de la rencontre.
Avec l'autre ?
Ouais, avec l'autre. Il faut espérer, en tout cas, que c'est avec l'autre.
Vous parlez d'énigmes, mais par exemple, ces cartes postales et ces petits mots dans une langue étrangère, en tout cas étrangère à celle de votre texte, Béatrice Leca, des cartes postales d'Emma Lazarus, qui n'arrête pas de souhaiter des nouvelles belles vies en Amérique, mais en anglais. Personnellement, énigme totale pour moi. J'aimais bien ces cartes postales.
Alors, pour moi aussi, c'est probablement lié au fait, alors à ce qui restait des lectures, des récits d'Ellis Island et de ce que ça représentait des États-Unis.
Ça amène énormément cet imaginaire-là. Mmh. Vraiment des vieux imaginaires d'immigration du 19e.
Voilà. Et c'est l'eau aussi. C'est-à-dire, pour moi, une partie de New York, il y a ce truc, cette espèce de statue de la liberté immense et déglinguée au milieu de l'eau et des gens qui sont arrivés et qui ont espéré construire, et qui d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, ont réussi à construire quelque chose qui était, une autre vie, quoi, une vie nouvelle.
Et alors, qu'est-ce que ça fait là ? C'est l'après-maladie ?
C'est une trace de ça. C'est une trace du fait que c'est New York, ça appartient à la ville, ça, pour moi. La ville, elle est très marquée par ça, par le... Elle donne une chance, voilà. Elle écrase aussi beaucoup. Moi, j'ai trouvé que c'était une ville très violente, New York. C'est pas une ville où j'aimerais vivre du tout, mais on sent que c'est la ville de l'électricité et la foudre peut frapper. Et c'est la ville de l'imprévu, en tout cas pour les gens qui sont jeunes et en bonne santé.
Tout comme arrive une carte postale, quoi.
Comme arrive un vœu, en tout cas. Ces cartes postales, c'est des cartes de vœux, c'est des cartes de c'est une sorte de recommencement, de rejouer quelque chose. Voilà. Ça, maintenant que j'en parle, ça me fait aussi penser au début de ce livre de Wilson Rath qui s'appelle Fuck America et où il y a toutes ces lettres qui arrivent, je pense, au consulat américain en disant, ouvrez-nous les portes, quoi. On meurt en Europe. Voilà. Et et auquel toutes les réponses administratives répètent la même chose. Ok, on vous répondra dans 17 ans, dans 19 ans, etc. Voilà, bon, pendant que les Juifs d'Europe sont exterminés.
Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?
C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens.
Créer des liens ?
Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Et tu seras unique pour moi. Je serai pour toi unique au monde. Si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. S'il te plaît, apprivoise-moi.
Julien Freum et Évelyne Perderizet, en 1977, offraient une lecture du Petit Prince de Saint-Exupéry sur France Culture. Est-ce que vous avez pensé à ce texte-là, Béatrice Leca ?
Oui. C'était mon texte culte quand j'étais adolescente. Je l'ai lu, c'était un texte important pour mon père, que j'ai dû lire enfant, qui m'a terriblement ennuyée enfant.
Parce que
je pensais pas du tout un livre pour les enfants. Et je l'ai relu quand j'ai eu 14 ou 15 ans. Et j'ai trouvé que c'était un texte merveilleux. Alors, je dois dire qu'on s'est beaucoup moqué de moi, une fois adulte, devant mon admiration pour Le Petit Prince, que j'ai relu il n'y a pas très longtemps, que j'ai lu à ma fille quand elle était toute petite, que je trouve un texte... Le mot qui me vient, c'est très pur, quoi. Bien que je ne suis pas tellement pour l'éloge de la pureté, surtout en ce moment, mais il est très... il a une simplicité... il a une évidence et il est comme certains miracles de texte, c'est-à-dire il est sans auteur. Il est arrivé là, quoi. Et je pense qu'il y a certains grands livres...
Il est sans Antoine de Saint-Exupéry.
Ah ouais. Il est produit par des siècles de littérature, de récits, de c'est comme une collision de... Enfin, c'est une constellation de choses a produit ce texte. Bon, oui, je trouve il a la puissance d'un texte sans auteur.
Et dans L'étrange animal, il n'est jamais absolument question d'apprivoiser qui que ce soit, ni tellement l'étrange animal, ni tellement l'enfant, au contraire de ce qu'on vient d'entendre de l'extrait du texte du Petit Prince, où l'un des enjeux, c'est ça.
Ils sont. Je pense que ils sont. En fait, c'est ce que vous disiez aussi, auquel j'ai jamais pensé. Mais ils sont sans langage. Bon, et du coup, ils se rencontrent autrement. Ils se rencontrent pas dans la langue, et donc ils ont pas de. Ils vivent des choses, mais ils ont pas de. Ils n'ont pas de projet. Et là, j'avais oublié que la voix du renard, elle est aussi inquiétante quand même. Elle est pas...
Juste avant, il dit qu'il a hyper envie de manger des poules et que c'est super dommage qu'il y ait des planètes ailleurs et qu'il n'y ait pas de poules, quoi.
Ouais, c'est un renard.
Merci beaucoup, Béatrice Leca. Ce texte s'appelle « L'étrange animal ». Il est publié aux éditions Corti. Bientôt, on entendra votre travail, parce que vous faites aussi de la radio dans l'émission L'Expérience, Aurélie Charron et Inès Dupéron. Un travail, vous voulez en dire quelques mots ?
C'est un travail autour du...
Travail en cours, quoi.
Voilà, c'est un travail en cours autour du temps qui a passé. Maintenant, les gens qui ont été déportés continuent à témoigner dans les lycées, dans les collèges. On est parfois un tout petit peu désespéré en entendant l'actualité. Comment le temps a travaillé ce témoignage? Est-ce qu'on témoigne de la même façon maintenant qu'il y a 20 ans? Est-ce qu'on peut dire la même chose? Est-ce qu'on a apprivoisé un récit ou pas? Comment? Etc. Voilà, c'est une question que j'ai voulu poser.
On entendra ça mi-avril sur France Culture. Et puis, si vous voulez aussi entendre une version sonore radiophonique de L'étrange animal, il y avait une adaptation qui en avait été faite par Michel Sidoroff. Et ça s'écoute encore sur franceculture.fr.
There is a story she cannot remind, the story of this young girl lost in the forest. And in the story there's a little house made of candies, and her family lives there. There is a story hidden in her mind, the story of this young girl lost in the forest. And in the story there's an animal, an old man with a white beard, smells like honey.
Ce soir au sein, c'était Julien Bourdet et Cédric Châtelus à la réalisation, Lise-Marie Barré. Un grand merci à Anne Toscane-Vuedes, à Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Romain Debec de Lièvre, Lou Quevouvillier, qui m'aide à penser et préparer cette émission tous les jours. Dans un instant, vous allez retrouver le journal. Et dans d'autres instants, vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr ou vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. Très belle soirée, à demain.
Secret à toi qui a été jusqu'au bout du podcast. Demain, on reçoit Daniel Waro.